comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023 en direct à midi ou en rediffusion à 18h. Nous sommes ravis tous les trois de vous retrouver aujourd'hui pour ce Comme un lundi. Salut Arnaud à la technique.
Et plal bonsoir, bonsoir à toutes.
Et salut Will à l'animation de cette émission.
Et adieu.
De l'actualité locale, vocale, sociale, environnementale, culturelle, conviviale, sociétale, bref, pas de cérémonial ni d'international, quoique, mais un coup de projecteur horizontal sur le Tarn.
Et au sommaire de ce Comme lundi 11 septembre, on terminera en musique avec le duo tarnais Monsieur et Madame Loops pour annoncer leur concert du vendredi 14 septembre prochain au Carré Public, un concert programmé dans le cadre du Sgenfest organisé par Pollux, deux soirées pour fêter la rentrée en musique.
Pas de message répondeur cette semaine suite à un bug de la boîte locale et vocale. Tous les messages laissés ont malheureusement été perdus.
Nous irons aux nouvelles du projet Urba Terra sur la ferme du Gau avec Henri Bureau, un projet qui n'en finit pas de rencontrer des embûches. On parlera aussi critique du numérique avec le collectif Écran Total, des échos du festival Les Résistantes qui avait lieu sur le Larzac en août dernier.
De la musique encore avec du blabla cette fois, avec le duo tarnais Boucan, Mathias Sembert et Bruno Izarn. On écoutera un titre extrait de leur album Blabla, tout un répertoire sans mots ou dans une langue inconnue. Voilà, ils seront en concert ce vendredi 15 septembre du côté du Manoir à Albi.
Et nous irons du côté de Blaye-les-Mines, où Radio Albigès a été à la rencontre de la résistance artistique du 8-14-00. Ils reviennent sur la création du centre d'art de la Petite Bruyère Sauvage et nous font part de leur future envie artistique.
Et on commencera ce commun lundi autour de la rentrée de l'espace Adèle, centre social de Verrières-Ressac.
Allez, comme un lundi,
c'est parti.
C'est la rentrée aussi pour le centre social Espace Adèle, situé dans le quartier de Verrières-Ressac à Albi, un centre social ouvert à tous les habitants et habitantes. Acteur de l'animation de la vie sociale, il a pour mission de favoriser la rencontre des populations, l'entraide et impulser des actions citoyennes sur le territoire. On en parle avec Claire Cardo, rencontrée la semaine dernière dans nos studios. Claire Cardo, bonjour.
Bonjour.
On peut peut-être vous présenter quel est votre rôle dans l'espace Adèle.
Alors, je suis actuellement sur des missions de responsable du centre social, mais je travaille en tant qu'animatrice au centre social depuis une dizaine d'années déjà.
Donc, centre social Adèle ou espace Adèle, on va le dire plusieurs fois pour les gens qui auraient entendu parler, mais qui n'auraient pas forcément le nom en tête. Donc, espace Adèle ou centre social Adèle, c'est la même chose et c'est dans le quartier de Ressac, c'est ça?
C'est dans le quartier de Verrières précisément. Et ouais. Notre champ d'intervention, ce sont les deux quartiers, Verrières et Ressac, même si ce n'est pas uniquement ces quartiers-là, c'est principalement ceux-là. Et l'espace Adèle en fait, désigne les deux structures, puisque dans le même bâtiment, il y a un multi-accueil, une crèche et le centre social. Donc l'espace Adèle regroupe les deux structures.
Le centre social, comme son nom l'indique, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle un centre social, c'est ouvert à tous les publics, il y a différentes propositions pour les publics, mais le but c'est quand même que tout le monde se rencontre en un espace.
C'est ça, l'idée c'est qu'il y ait un espace effectivement pour accueillir les personnes dans un même lieu, pour créer du lien, parce que créer du lien c'est un peu notre cheval de bataille, notre leitmotiv, ce qui anime un peu tous nos projets. Mais c'est aussi l'idée de sortir de ces murs-là et d'aller à la rencontre rencontre des habitants du quartier, qu'ils soient plus ou moins proches. Mais c'est effectivement de se faire connaître et d'emmener notre savoir-faire, notre technicité auprès des habitants pour repérer ce qui ne va pas, être à l'écoute de besoins particuliers et éventuellement, si ça relève de notre domaine, mettre en place des projets ou des actions qui correspondent à ces attentes-là et si possible, d'accompagner les habitants même dans la réalisation de leurs propres projets.
Les prétextes à ces rencontres, c'est des activités ou c'est des rendez-vous. Le premier rendez-vous qui est donné, c'est ce vendredi 15 septembre à partir de 17h, où il y aura plusieurs choses. Je dis le premier rendez-vous, mais il y a déjà un premier rendez-vous ce mardi 12 aussi. Oui. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine-là donc ?
Alors, cette semaine, on prépare la reprise des activités. Donc, le mardi 12, c'est le café bénévole. Donc, on réactive, on va dire, la vie bénévole au centre social, puisque pour que les habitants ou les adhérents du centre social puissent exprimer leurs envies ou leurs besoins, il faut bien qu'il y ait des espaces pour ça. Donc on met en place les professionnels du centre social, ils ne peuvent pas agir tout seuls. Par principe, on agit avec et auprès des habitants. Donc le café bénévole, c'est une manière de créer un espace de rencontre pour ces bénévoles et pour réfléchir avec eux sur ce qu'ils ont envie de mener. Ça peut aller du simple coup de main, je viens installer trois tables pour un événement un peu festif, à je propose une activité plus régulière ou je m'investis dans un projet solidaire parce que j'ai besoin de faire ça dans ma vie. Donc ça c'est une possibilité. Donc le prochain rendez-vous de rencontre des bénévoles du centre social, c'est mardi 12.
De 14 à 16, je crois.
Voilà, c'est ça. De 14h à 16h au centre social Adèle. Et donc avec un petit groupe de bénévoles qui est déjà constitué, on est en train de préparer la fête de la rentrée du centre social qui aura lieu le vendredi 15 septembre à partir de 17h à l'extérieur et à l'intérieur du centre social. On investit un peu tous les espaces et qui permet de reprendre contact avec les adhérents évidemment, de rencontrer de nouveaux adhérents qui nous contactent déjà au téléphone, de rencontrer les habitants du quartier, de reprendre contact également avec nos partenaires. Et voilà, donc on a souhaité faire ça de façon assez simple. Les mots-clés, ça sera surtout le côté ludique et la convivialité pour ce moment-là.
Donc 17h, l'ouverture des portes et donc des rencontres, espace jeu avec la ludothèque.
Voilà.
Jeu en bois, présentation des réalisations de l'atelier couture, un atelier tatouage, un apéritif offert et une animation avec Don Diego.
Voilà, Don Diego qui est un musicien qui a fait un petit concert dans le jardin cet été et qu'on a trouvé très chouette. Donc je vous invite à nous rejoindre pour le découvrir ce vendredi 15. Voilà, ça sera un petit moment bien agréable. Donc la soirée va s'étaler entre 17h et 21h en gros. Voilà. Les gens sont libres d'arriver en fonction de leurs possibilités, aux horaires qui leur conviennent. On peut rester 10 minutes, on peut rester 3 heures, on fait comme on veut.
C'est ouvert à tous, c'est gratuit.
C'est ouvert à tous, c'est gratuit, exactement.
Et on le redit, c'est à l'espace Adèle Centre Social, c'est le 10 rue Françoise Dolto, donc à Albi, dans le quartier Verrières-Ressac.
C'est ça. Pour les personnes qui sont disponibles, on propose différentes activités. Alors je parle d'adultes qui vont avoir des trous dans leur emploi du temps ou du temps libre. On propose différentes activités comme la couture, la gym, il y a un atelier d'activité physique adaptée. Là, c'est plutôt ciblé pour les seniors qui est proposé par le CCAS dans nos locaux. Il y a l'association Aralia qui propose des ateliers sociolinguistiques donc pour l'apprentissage du français. Donc ça, c'est des activités qui vont, on va dire, rythmer la semaine type au centre social. Et au-delà de ça, il y a d'autres activités qui vont revenir plus ponctuellement. Donc, je pense aux activités autour de la parentalité, ce qui est un de nos axes d'intervention principal. Donc il va y avoir la rencontre des poussettes, qui est un atelier par enfant. Là, c'est en alternance une fois par mois au centre social ou à la maison de quartier de Reissac. Des ateliers de bricolage parents-enfants, c'est pareil, c'est une fois par mois. On remet en place aussi les soirées parents-ados, qui sont des temps d'échange et de rencontres entre parents et adolescents autour de différentes thématiques, un vendredi par mois. Voilà. Et ensuite, un programme d'activités qui rythme la saison, mais qui évolue aussi en fonction de la météo. Donc là, on est plutôt sur les dernières activités d'extérieur avant l'hiver, avec quelques sorties en extérieur. Parfois, on prend le bus et on va se balader. Il y a un compte en balade, par exemple, dans la forêt de Sérénac, une visite d'une ferme pédagogique, voilà. Ça peut être des sorties comme ça. Il y a aussi des ateliers pour les parents et les enfants pendant les vacances, parfois ou pas forcément. Voilà. Et puis, des sorties spectacles à la SNA, donc pour aller découvrir un peu la programmation de notre salle de spectacle. Un projet ciné autour pour les adultes. Donc là, le principe, c'est qu'on va ensemble voir un film. On se retrouve après au café pour discuter, pour en débattre. Voilà, et puis pas rentrer avec parfois des émotions un peu compliquées à la maison et se retrouver avec ça tout seul. Voilà, donc différents types d'activités en journée, en soirée, parfois en week-end, pour les plus petits, pour les parents et les enfants. Enfin voilà, on essaye vraiment de s'adresser à tout le monde, de répondre à tous les besoins et de construire des choses, voilà, dans l'idée de découvrir un peu son environnement, de profiter aussi des relations intrafamiliales, parce qu'on a des grands-mères, par exemple, qui viennent participer aux activités avec leurs petits-enfants. Et nous, on accompagne les familles sur des actions collectives comme ça. Ça nous permet de discuter de questions éducatives, voilà, des choses un peu plus profondes, mais qui ne sont pas forcément l'objet même de nos ateliers.
Pour faire tout ça, il y a plusieurs partenaires, donc on l'a dit, les habitants et habitantes, oui. des partenaires plus ou moins institutionnels. On parle de Fonds Labour, on parle de la SNA, on a parlé de la SNA. Oui. Il peut y avoir des associations qui, Acné, je crois aussi, oui. Pour le club robotique.
Alors on a des intervenants qui peuvent être à leur compte ou des associations qui ont leur propre savoir-faire, parce que nous, on sait faire plein de choses, mais pas trop en partie technique. Donc on fait appel à des personnes qui ont des savoir-faire, mais qui vont rester centrés sur les mêmes intérêts que nous, c'est-à-dire travailler sur la relation à l'autre, sur le renforcement des liens, sur la lutte contre l'isolement, sur améliorer les relations intrafamiliales. Et on va s'appuyer sur ces activités-là pour travailler tout ça. Donc les partenaires ou les intervenants, en tout cas, peuvent apporter cette technicité. Et parfois, on a des projets qui se font à travers les rencontres avec différents acteurs, différents partenaires dans le quartier. Donc comme avec le projet que vous citiez avec Fonds Labour, là, il s'agit de travailler avec une classe de CAP menuiserie, qui doit venir travailler avec nous, l'équipe et les bénévoles, au jardin du centre social pour réfléchir avec nous sur la construction de mobilier de jardin qui restera ensuite au centre social et qui profitera à tout le monde et qui permettra d'avoir un espace extérieur plus agréable.
Alors tout ça, c'est à découvrir donc ce vendredi 15 à partir de 17h, l'espace Adel. Mais il y a donc la semaine des portes ouvertes du 18 au 22 septembre avec tout ce qu'on a dit. Pour se renseigner, il y aura des flyers ou des pliants à venir chercher au centre ou qui seront...
Alors déjà, par téléphone, ça peut fonctionner. Mais effectivement, le jour de la fête, le 15 septembre, toute l'équipe du centre social sera mobilisée, sera présente pour aller à votre rencontre. Et à ce moment-là, effectivement, on a tous les programmes que je suis en train d'évoquer. On les a imprimés. Donc on peut vous remettre les documents à ce moment-là, vous expliquer un peu le fonctionnement de la structure. Et effectivement, à partir du 18 septembre, les activités régulières se remettent en place. Donc chacun est libre de venir voir un peu comment ça marche. si l'activité lui convient, s'il se sent à l'aise dans le groupe, ça a aussi son importance. Et à partir de là, décider s'il s'inscrit ou pas sur une activité. Le seul petit bémol, c'est que potentiellement sur certains ateliers, on n'aura pas forcément de place pour tout le monde, mais on met un système le plus égalitaire possible pour permettre à chacun d'obtenir ce qu'il souhaite.
Alors dernière question, Claire Cardo, c'est une proposition qui est déjà en place, qui va se remplir au fur et à mesure des rencontres. Ouais. Est-ce que s'il y a des associations, des individus, des habitants du quartier ou pas, voisins ou pas, du séquestre ou d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent venir vous rencontrer pour co-construire un projet ou proposer des ateliers ?
Oui. Construire un atelier, si c'est en direction du public du centre social, on va être vigilante sur la cohérence du projet, enfin l'adéquation en tout cas du projet avec des besoins qu'on a déjà repérés ou qui auront été exprimés par les uns ou les autres. Voilà. Mais c'est à peu près la seule condition. Après, l'idée de ce fonctionnement-là, c'est d'accompagner. Nous, on a un savoir-faire pour accompagner la construction de projets. Donc l'idée, c'est pas qu'on récupère le projet et qu'on le fasse. Au contraire, c'est d'accompagner les habitants sur les différentes étapes ou difficultés éventuelles pour les aider à construire leur propre projet. Donc ça c'est envisageable, mais ça peut être... Alors, ça peut être quelque chose d'ambitieux, mais ça peut être... je ne sais pas, on a envie d'imaginer un moment festif à tel moment de l'année pour rassembler les habitants et valoriser tel ou tel aspect de la vie du quartier. Voilà, ça peut suffire. Voilà. Il faut juste qu'il y ait des personnes qui se mobilisent. Et ce qui, pour nous, alors je précise que le centre social, on est quand même une petite équipe et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Donc voilà, je reviens à mon idée de café bénévole tout à l'heure. Ça peut être aussi ça l'idée. De venir partager vos idées à ce moment-là.
Café des bénévoles, donc le 1er 12 septembre de 14h à 16h au centre même. Ensuite, il y en aura d'autres, 26 septembre, 10 octobre, etc. Voilà. Et c'est des mardis, en général.
Oui.
Merci beaucoup, Claire Cardo, et on vous souhaite une belle rentrée.
Merci beaucoup,
le centre social,
merci de m'avoir accueilli.
Et donc, on redit les coordonnées du centre social Espace Adèle. C'est au 10 rue Françoise Dolto, dans le quartier Verrières-Ressac, à Albi. Et le contact téléphonique, c'est le 05 63 48 39 92. Je le répète, 05 63 48 39 92.
La Petite Bruyère Sauvage est un centre d'art à Blaye-les-Mines. Il est libre, ouvert à toutes et tous qui souhaitent créer, s'exprimer ou juste contempler. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce centre d'art appartient à personne, je sais pas, et Jean Jaurès. Radio Albigès est allé à l'occasion de deux concerts qui ont lieu le dimanche 9 juillet 2023, dans ce lieu libre, chargé d'histoire locale et d'art. Car le centre d'art a investi les lieux d'une ancienne cité ouvrière de travailleurs, des mines de charbon à Blaye. La résistance artistique du 8-14-00 aspire aujourd'hui à trouver un nouveau lieu d'expression artistique libre où chaque artiste peut y trouver sa place simplement. Ils nous expliquent leur lutte, leur aspiration et leur audace.
La Petite Bruyère Sauvage, un nom carrément charmant qu'on a donné à ce lieu qui a une putain d'histoire quand même, mine de rien. Voilà, c'était là, c'était ouvert, c'était vide. Et on s'est dit, tiens, si on allait y faire des trucs, y coller des œuvres d'art et peut-être même en fait en fabriquer un endroit où les gens, quel que soit le moment de la vie, c'est-à-dire en plein empêchement d'aller voir quoi que ce soit, ben peut-être en fait ils pourront venir là et peut-être qu'on sera bien à cet endroit-là. On n'est pas un collectif, on n'est pas une asso. En fait, depuis le début, on a vachement envie que tout le monde se sente libre de faire des choses ici, parce que ça appartient à personne, je sais pas, et Jean Jaurès.
En fait, l'idée c'est ça, c'est dirigé par je ne sais pas, personne et Jean Jaurès, c'est les trois personnes qui dirigent la chose, ce qui permet en fait l'accessibilité totale. En fait, il n'y a pas de nom parce que ça appartient à personne, tu vois, c'est lui le propriétaire, et à tout le monde quelque part.
Nous, on a comme commencé, peut-être mis un peu une ambiance ou un move. Et en fait, on fait confiance aux autres humains pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ici ou pas. Ou en fait, que même s'ils ne peuvent pas le faire, bah, ils le fassent quand même. Par exemple, là, on est devant ce collage quand même assez massif. Il a été décollé, arraché. Il ne ressemble plus à grand-chose, là, aujourd'hui. Mais c'est OK, en fait. C'est pas grave, quoi. Là, il se trouve que c'est quand même un peu cassé des choses, donc ça nous fait toujours un peu chier. Mais il y a des gens qui repeignent par-dessus des trucs qui existent déjà. Et ben c'est le principe. Généralement, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que les gens ils captent en fait qu'il y a des endroits qui sont déjà occupés et qu'il y a un mur à côté qui est libre, ils peuvent aller à côté. C'est pas toujours le cas. Bon, après, il y a toujours des gens qui ont peur, quoi. C'est un peu le principe des humains. Quand ils ont peur, ils font de la merde. Du coup, l'art fait peur, la liberté fait peur. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel qu'on soit là. Parce qu'en fait, on a quitté officiellement la petite bruyère sauvage. Sauf que bon, on a du mal, on a difficulté à ouvrir l'autre lieu qu'on vise. Et surtout, en fait, ici, on est quand même bien tranquille pour faire des concerts. Donc du coup, comme c'est un peu le bail d'aujourd'hui, ben, on est venu ici quand même. Aujourd'hui, je suis une partie de la résistance artistique du 8-14-00 qui accueille du coup deux concerts sur place. Je pense que c'est des journées off pour les groupes qui viennent, et puis par le biais de plein de petits contacts et de réseaux, ils ont eu envie de venir poser un peu leur son ici.
Mais là, on l'a repris juste pour le temps d'un concert, hein, avec les Schlag, mon groupe punk, comme on aime bien, et Ironé Binamé, un groupe punk aussi, mais ça ressemble plus à des chansons de la commune, j'avouerai. Voilà, ils ont été validés par le Popolitbüro et ils jouent ici, c'est eux qui ont voulu jouer. René Binamé, c'est un groupe très intéressant parce qu'ils jouent dans des salles de concert, on les a rencontrés, on leur a dit, mais ici c'est un son quand même, il ne faut pas s'attendre à une salle de concert. Ils nous ont dit, mais on sait, on joue dans des squats parce qu'on adore jouer sur des scènes, mais franchement, pourquoi jouer sur des scènes si de temps en temps on ne joue pas dans des squats?
Parce qu'eux aussi, ils sont sur l'accessibilité au public en fait.
C'est ça, ouais.
En fait, eux aussi, ça les stimule ce principe-là.
Ils ont une cause, comme nous un peu.
Ça symbolise quand même quelque chose.
Ouais, c'est pas rien, hein. C'est quand même pas rien, quoi. On va sortir un bouquin à un moment, c'est long à faire et c'est super dur. On a tous plus ou moins des boulots, donc on a un temps qui est relatif, mais on sort un bouquin qui parle de ça. En tout cas, c'est cette première année qui répertorie un peu toutes les œuvres posées, dans quel baraquement et tout et tout. Je sais pas si vous avez vu à l'entrée, donc quand on arrive, le premier baraquement, la première porte qui est face à nous, c'était l'accueil au début. Et en fait, il reste des vestiges du collage qui était le plan du site. Et en fait, sur ce plan, il y avait toutes les pièces qui étaient marquées et tout ça. Et on notait quand on avait rajouté des trucs. La plupart des gens, en plus, sans qu'on l'ait expliqué nulle part, hein, jouaient le jeu. Ils rajoutaient soit leur signature dans les pièces, soit le nom de l'œuvre, soit... Enfin, voilà. Il y a eu plusieurs propositions. Bon, maintenant, c'est pareil. Il a pris un peu cher, là, le collage, mais...
C'est un lieu d'exposition artistique libre, en fait.
C'est ça. C'est exactement
ça. Indépendant et qui n'a pas envie d'être sous la couverture de quoi que ce soit.
C'est ça. Et les flics, quand ils viennent nous virer de l'autre lieu qu'on essaie d'ouvrir, ils nous disent « Mais vous vous rendez pas compte, on vous a ouvert un lieu à Blaye-les-Mines, vous pouvez rester là-bas. » Donc en fait, même eux sont déjà convaincus qu'eux-mêmes nous ont aidés là-dessus. Et surtout, qu'il faut qu'on soit dans le bon endroit, quoi, et qu'il faut surtout pas qu'il y en ait d'autres. Parce que sinon, ça fait du fuzz.
L'idée, c'est de ne pas être une réserve. C'est surtout ça, tu vois. Parce que quand on est en dehors du centre d'art et qu'on met des choses dans les murs ou dans la rue, les flics arrivent, ils nous foutent dehors et nous disent « Ouais, allez là-bas !» Ah non, s'il te plaît, quoi.
On ne veut pas partir d'ici au sens strict. On veut juste un peu continuer, tu vois, je dirais. Ouvrir un nouveau lieu, c'était pas fermer celui-là, forcément. C'était vraiment juste continuer, en fait. C'était un peu ça. C'était pas un partir d'ici au sens strict, c'était plutôt un aller vers, quoi. Continuer.
Continuer à occuper des endroits où il y a eu d'autres
continuer
histoires.
À utiliser des endroits qui ne servent plus à rien, a priori. Et comme pas... C'est pas on veut pas faire de la démonstration, mais cet endroit-là, il est à l'abandon depuis 20 ans maintenant. Il s'y passe rien, mis à part que les gens, comme ils voient le lieu abandonné, ils y mettent leurs déchets. Bon, voilà, il y a des gens qui viennent encore casser des trucs, voilà. En fait, pendant toute la période où on a vraiment, vraiment occupé ce lieu, c'est-à-dire jamais au sens on n'y vit pas, on n'est pas venu le squatter, ce lieu, mais pendant tout le temps où en journée on venait faire des trucs et tout, les voisins, parce qu'il y a du monde en face quand même, il y a des gens qui habitent dans le quartier, tout le monde nous a dit mais on vous adore, on est trop contents depuis que vous venez, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a plus de gens qui viennent jeter un chargement entier de déchets et de trucs comme ça. En fait, c'est un peu ça qu'on a envie de faire aussi dans d'autres endroits. Notre futur lieu, qui n'est pas encore vraiment notre lieu, c'est un lieu au centre-ville de Carmaux, qui est en fait une déchetterie depuis 5 ans, qu'on a vidé récemment jusqu'à ce que la mairie se rende compte qu'on commence à arriver et qu'ils ferment le truc, mais qui sert à rien depuis 5 ans. On ne demande pas grand-chose d'autre que de pouvoir coller des trucs sur les murs ou faire de la peinture ou des trucs. Si les mecs ils veulent casser après leur bâtiment et faire un parking géant, qu'ils fassent. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, pendant ce temps, comme ça, pendant cette parenthèse où ça sert à rien d'autre que juste d'être là, ben, peut-être en fait on peut en faire autre chose. Donc voilà, on veut continuer ça. Partout.
On est attaqué de partout. En fait, finalement, si tu veux lutter, tu sais même plus par où prendre le truc, tellement il y a de choses. Moi, personnellement, et c'est ce qui a réuni un peu la résistance artistique, c'est lutter en local, parce qu'en local, on voit les effets. Si tu veux, la résistance artistique du 8-14-00, le code postal, j'appelle ça la résistance artistique des codes postales, l'idée, c'est que d'autres villes arrivent à faire le leur aussi, tu vois.
On réfléchit à faire une résistance artistique du 8-10-00, et on en a bien besoin, ça.
Je voulais juste finir par une phrase, quoi. Je suis Jean Jaurès et vous êtes la résistance.
Et allez, une actualité pour la résistance artistique du 8-14-00 qui réalisera une performance collective et artistique le 18 septembre à 19h et à 20h au Gros Village de Toulouse à l'occasion du Festival international du film grolandais de Toulouse, le fameux Fifi Gros, avec une exposition collective « T'as voulu voir Carmaux ?» mêlant musique, mise en scène, lecture, collage. Il se prépare depuis quelques temps pour cette performance. Vous pouvez découvrir l'intégralité de l'émission réalisée avec la résistance artistique dans le créneau hors format de cette semaine, le vendredi 15 septembre à 20h et le samedi 16 septembre à 10h sur nos ondes ou en streaming sur notre site internet. Vive les audacieux sur Radio Albiges.
Allez, Pollux Asso fête la rentrée en musique avec pas moins de 3 événements prévus ce week-end. Premier rendez-vous au Carré Public à Albi ce jeudi 14 septembre à partir de 18h avec le duo tarnais Monsieur et Madame Loops ainsi que le groupe de salsa latine La 45. Second rendez-vous le vendredi 15 septembre à la Tanor, soirée concert avec la Caravane Pass et Bob's Not Dead. Et enfin le samedi 16 septembre à partir de 19h, Pollux Asso sortira son estafette leur scène mobile, rendez-vous du côté du musée de la mine à Cagnac-les-Mines pour le concert de Raccoon Tycoon, Louis and the Hurricanes et Angie et Pamy. Toute la prog est à retrouver en détail en passant par le site internet polluxasso.com et nous on écoute notre duo tarnais préféré. Il s'agit de Monsieur et Madame Loops avec le titre Retour à la bougie.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini.
Do you see the candle? bougie, tu dis que c'est pour ça qu'on crie. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, t'as du vide pour la batterie. À mort les dinosaures et vive la technologie. C'est le tri entre celui qui détruit et celui qui survit. Choisis ton cœur petit car c'est la vie qu'on confie. Combina, confiné, tout en ton parti. C'est pas dans la planche habillée, un monde meilleur tu bâtis. Le chemin orchestré par les
Illuminati.
Au mitard, les idées, suppos de l'utopie. Le panard, la liberté d'une vraie démocratie. Promotion de la vie ou en promotion la vie. À toi de voir le temps que tu.
Le siècle des lumières est bien loin derrière. Retour à coup sûr dans un monde sombre et froid. Dans ces cavernes modernes, la loi n'est plus foraine. Et les violences étaient les flammes d'une nouvelle voie.
Le confiné a franchi. Héros de la nation, ton devoir tu as compris. Car c'est la prime sur la déprime qui te sourit. Mais un jour toi aussi tu as compris. Touché par la grâce de l'empathie. Et surtout par le coup de grâce de la hiérarchie. Qui t'oblige à cogner sur ta propre fratrie. Et pris à partie et c'est reparti. Le coup de la vie et le coup de l'envie. Promotion de la vie ou en promotion la vie. Y'a pas de voir à toi de voir le temps que tu. Qu'elle est là. Tu vis,
tu crois encore le monde hier, c'est aujourd'hui. C'est toi le fossile qui s'égosille, c'est pas pire. Conquérant, gluant, très très méchant. En avant les Attila guidés par les Attali. Des valeurs de valeurs, voleurs. Réactionnaire, actionnaire, belle Rolex, milliardaire. On y soit qui mal y croit, valeur actuelle et gala.
Monsieur et Madame Loop sur les ondes de Radio Albigès, le duo tarnais sera à voir en concert ce jeudi 14 septembre du côté du Carré Public à Albi à partir de 18h. Un événement organisé par Pollux Asso dans le cadre du Sgenfest. Et vous êtes toujours branchés sur les ondes de Radio Albigès dans l'émission Comme un lundi, l'hebdo d'info avec tout ce qu'il faut. Et je me tourne vers Will. Je crois qu'on va parler maintenant de réseaux sociaux et de complotisme. C'est bien ça ?
Alors en fait, oui, on va annoncer une conférence qui aura lieu ce vendredi 15 septembre à 18h à Saint-Antonin de Nobleval, qui vous est proposée, donc une rencontre avec Mathieu Amièche, auteur de L'industrie du complotisme, réseaux sociaux, mensonges d'État et destruction du vivant. C'est aux éditions La Lenteur. Ce livre choisit d'affronter les questions qu'il soulève, tantôt absurdes, tantôt légitimes, en les réinscrivant dans une perspective politique. Mais qui est Mathieu Amièche au juste? Nous l'avons rencontré sur le Larzac lors des festivals Les Résistantes, début août dernier, lors desquels nous avons aussi enregistré l'intervention de sa collègue Sophie.
Le numérique, c'est la mise en œuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère. C'est la transformation numérique. Les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien. Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique, principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN.
Écran Total est né à la suite d'une lutte contre le puçage des animaux. Faut pas pucer. Le collectif s'est opposé au Linky, à l'électrification, à la numérisation de la santé, de l'école, avec l'appel de Beauchastel, au pass sanitaire plus récemment. Et cette année, nous avons lancé une campagne contre l'espace de santé numérique et le projet de portefeuille d'identité numérique qui est dans les tiroirs de l'Union européenne. Et récemment, on s'est de plus en plus intéressé à l'impact du numérique sur les milieux naturels, car vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'on nous vend la dématérialisation des services publics, c'est-à-dire leur destruction au nom de la transition écologique. Donc, pour commencer, le numérique est une industrie particulièrement intensive qui repose sur l'extractivisme. Donc, le terme d'extractivisme, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est un terme forgé par Eduardo Goudinas, un penseur de l'écologie décoloniale. C'est un premier rappel important. Lutter contre le numérique, c'est lutter contre la colonisation et la prédation, l'accaparement des terres où vivent encore des humains qui tentent de se tenir en dehors du cosmos capitaliste. Donc aujourd'hui, il y a un double extractivisme. Le premier, donc, c'est celui lors de la fabrication, la production, qui est le plus polluant. Le deuxième, c'est celui lié aux usages. Donc d'un côté, l'extractivisme des métaux, et de l'autre, celui des données, avec les data centers, etc. Pour vous donner un petit ordre d'idée, dans un ordinateur portable, on trouve 20 métaux. Dans un smartphone, c'est entre 40 et 60. Et plus on va vers la miniaturisation, voilà, plus en fait, c'est un concentré de métaux rares. Un autre exemple, voilà, pour produire un gramme d'or, il faut concasser et traiter au cyanure une tonne de roche.
Est-ce que si on revient sur l'écran, la télé, ça démocratise un truc aussi qui est le cinéma au départ, où les gens se déplacent ensemble dans un lieu pour voir une œuvre, soit culturelle, soit spectaculaire, etc. Est-ce que déjà pour toi, dans le cinéma, il y a l'embryon d'un truc un peu qui casse justement ces liens-là, ou est-ce que justement la télé individualise et atomise?
Bah écoute, c'est plus ambigu, je dirais, le cinéma. Il y a sans doute des choses à dire sur le cinéma, mais je pense que c'est aussi un art qui rassemble. Il y a sans doute des choses à discuter sur les moyens techniques employés, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui rassemble. La télé, c'est quelque chose qui atomise. Et donc avec l'Internet, aujourd'hui, on a ces choses-là qui se prolongent, c'est-à-dire véritablement une confiscation des relations sociales. On voit comment les gens dans les grandes villes sont plongés sur leur écran, ne se tournent pas, parfois sont capables de pas du tout se tourner vers les gens autour d'eux. C'est un approfondissement. Il y a vraiment là une focalisation avec ces histoires d'écran qu'on peut embarquer avec soi. On a non seulement le monde qui vient à soi, chez soi, comme disait Günther Anders, et qui devient plus important que ce qui est autour de nous, mais on peut emporter ce monde partout où on va, dans le monde. Et donc là, ça génère une forme d'autisme quelque part, au sens large, un problème de communication, disons. Voilà, je me permets d'employer ce mot parce que on a un problème de communication qui apparaît entre les semblables, entre les humains. Et on a aussi une autre radicalisation de ce qui se passe avec la télé, c'est-à-dire le fait de remplacer les flux d'images qu'on a en nous. La télé avait déjà commencé à casser l'imaginaire autonome, disons, des cultures particulières, en imposant certains standards, certaines représentations, avec l'Internet, quand on entend parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, on est vraiment dans une situation où il y a des industriels qui prétendent entièrement diriger le flux d'images qui sont en nous. Et c'est préparé aujourd'hui par des étapes comme le fait qu'on voit bien que pour beaucoup de gens, quelque chose ne se produit que quand il est filmé. Pour plein de gens, quand ils veulent raconter quelque chose et partager l'émotion qu'ils ont eue face à tel événement, soit parce qu'il est horrible, soit parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui les a touchés, qui leur semblait beau. En fait, ils ne vont pas avoir confiance dans leurs paroles pour le raconter, pour émouvoir l'autre, pour transmettre leurs sentiments, mais ils vont passer par l'image. L'image, parce que c'est ça l'absolu. Et on retrouve ça aujourd'hui avec le problème des témoignages sur les violences policières, etc. C'est-à-dire la parole, on est dans un monde où la parole ne fait pas foi, et il n'y a que l'image qui peut faire foi. C'est-à-dire si on dit « un tel a frappé, monsieur a été frappé dans sa boutique par des policiers déchaînés », s'il le raconte, ça n'a pas le même poids que si on voit l'image de la chose. Ce qui, en un sens, peut sembler logique, mais en fait, c'est très très problématique, parce qu'il y a vraiment une disqualification de la parole humaine.
Je vais citer Anna Bednik, qui a été une des premières à nous faire connaître, à travailler sur l'extractivisme et le boom minier qui a lieu aujourd'hui. On s'apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que pendant toute l'histoire de l'humanité. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, il y a Celia Izoar qui parle de technologie extraterrestre qui est en train d'anéantir les derniers modes de vie terrestres. Et elle analyse l'industrie électronique, qui est l'autre mot moins imaginaire du numérique, donc l'industrie électronique, comme un programme extraterrestre qui sacrifie les terres, l'eau, la vie sociale, la liberté. Pourtant, alors que nous sommes en pleine catastrophe écologique, que les médias en parlent et qu'on nous parle de transition écologique, le numérique, c'est le secteur qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui. Vous avez connu la 2G, vous connaîtrez bientôt la 6G. Et à chaque fois, ce sont de nouvelles infrastructures, de nouveaux usages et de nouveaux faux besoins. Il faut savoir que les flux vidéo représentent aujourd'hui 80% de l'augmentation du volume annuel des données. Et il y a une explosion de la consommation de vidéos en ligne. Pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller lire le rapport du Shift Project qui s'appelle « L'insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Et vous trouverez des chiffres précis. La vidéo, c'est un quart du trafic, c'est la pornographie, le nouvel imaginaire numérique de la sexualité.
Si on passe pas par le numérique, si on passe par l'échange ou par la lecture, par exemple, comment vous dans ton métier d'éditeur aussi, ou même quand tu écris, comment tu penses à la réception d'un bouquin? Est-ce que c'est encore sacralisé? Est-ce que c'est bien que ce soit sacralisé un bouquin, ou est-ce que justement on pourrait le désacraliser, et comment pour que plus de gens se l'approprient?
Je pense que nous on cherche justement à le désacraliser, à en faire quelque chose qui circule. On fait aussi des brochures. Et on essaye d'avoir une transmission. De toute façon, on voit que les livres qui marchent, c'est les livres que les auteurs présentent de manière vivante, font vivre par des conférences débats, par une présence, une parole de proximité avec des gens qui se posent des questions, qui ne comprennent pas telle chose, qui n'ont pas la grille de lecture pour d'emblée saisir tel ou tel problème. Et nous, on est pour une désacralisation et pour une réappropriation aussi de la lecture. On pense que c'est quelque chose qui s'est produit dans le mouvement ouvrier, qui a eu toute une vague, on peut dire, d'alphabétisation, d'apprentissage de la lecture, qui était fondamentale quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier. Parfois, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de comprendre des pétitions qui étaient écrites par des prolétaires anglais voilà, adressée au patron, adressée au pouvoir public, sur la durée du travail, sur l'usage des machines. Aujourd'hui, on n'imagine pas facilement des textes qui seraient aussi bien écrits par des gens du commun. Et voilà. Et puis, on a vu ça aussi en Espagne, dans le mouvement anarchiste, un mouvement d'auto-éducation, d'auto-formation. Voilà, c'est des choses qu'il faut reprendre, qu'il faut réactiver. Et ni sacraliser le livre, ni le... Voilà, il y a aussi parfois un anti-intellectualisme important dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de contestation. Et voilà, il faut trouver le chemin entre les deux. Avoir l'écrit, il y a des gens qui disent « Ouais, l'écrit, c'est l'outil du pouvoir, etc. » Moi, je pense pas que ce soit si simple. Je pense que c'est un outil qui peut être retourné. Voilà, mais il doit pas être sacralisé, effectivement.
Voilà des échos des résistantes sur le Larzac début août dernier, Mathieu et Sophie du collectif Écran Total. Des entrevues et enregistrements à retrouver dans une plus longue émission la semaine prochaine sur nos ondes. Rendez-vous dans le créneau micro ouvert lundi 18 septembre à 8h du matin. Rediffusion mardi 19 à 16h. Et n'oubliez pas le rendez-vous de ce vendredi 15 septembre à 18h à Saint-Antonin-Nobleval, salle des Termes, où Mathieu Amièche, qu'on a entendu, présentera son dernier livre, L'industrie du complotisme, aux éditions La Lenteur.
Comme un lundi, le journal d'information de Radio Albigès.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Tous les lundis, à midi et 18h, mais aussi en podcast sur radioalbigès.com.
On peut dire qu'il lâche pas l'affaire. Henri Bureau et son association Urba Terra occupent la ferme d'Hugo alors que les rebondissements autour du projet de ferme urbaine puis de tiers-lieu n'en finissent pas. Petit rappel des faits, version Henri Bureau bien sûr, rencontré mercredi dernier sur la ferme même.
Le bruit de fond qu'on entend, c'est la rocade.
Mais il y a quelques oiseaux quand même, la nature n'a pas dit son dernier mot. Alors pour décrire aux auditeurs, on est à l'ombre d'une vigne, d'une treille, devant un mur qui a quel âge à peu
près ? La ferme ?
Ouais, le mur en tout cas.
Un peu plus de 2 siècles. Un peu plus de 2 siècles, c'est une ferme qui est du même modèle que celle qui a été détruite à la Renaudier. Alors, la différence, c'est que celle-ci n'a jamais été restaurée, qu'elle est dans son jus. Et ben, ça peut être une introduction au sujet, dans la mesure où ça a été le début du litige entre la fondation, qui est toujours propriétaire, et Urba Terra. Puisque après avoir demandé à Urba Terra de mettre son siège social à la ferme d'Hugo, c'est la fondation Saint-Martin qui nous l'a demandé, un peu pour redorer son blason. Pourquoi ? Parce que la fondation Saint-Martin, créée avec les œuvres du père Colombier en 1918, était une fondation à vocation sociale. Or, cette fondation que je connais bien de l'intérieur, puisque j'en ai été administrateur pendant un temps, elle ne fait rien en social. Elle est loueur de biens. Point. Elle est gestionnaire de patrimoine et elle loue du patrimoine et elle en vend. Et quand elle avait signé avec Urba Terra, elle s'était engagée à faire des travaux importants parce qu'il pleut dans toutes les granges. À l'époque, il y avait 20 millions d'euros dans la caisse à la Fondation Saint-Martin, mais on ne faisait pas les travaux. Comme ils ont eu des problèmes qui ont défrayé la chronique, ils n'ont plus voulu faire les travaux et pour ne plus faire des travaux, ils nous ont déclaré occupants sans droit ni titre.
Le montant des travaux, ça a été chiffré à peu près qu'il aurait fallu faire.
Il y a des devis pour 350 000 euros.
350 000 euros pour redonner vie à la fois aux bâtiments agricoles et aux bâtiments d'habitation ?
Alors, les bâtiments d'habitation, pas complètement. C'est-à-dire, par exemple, il faut déchanger toutes les huisseries qui sont plus du tout aux normes. Mais si nous avions pu faire les travaux, nous, je pense que parce que j'ai pas mal pratiqué, pu faire ces mêmes travaux avec un zéro en moins. C'est-à-dire qu'en achetant des matériaux et en faisant des chantiers participatifs, on peut arriver à beaucoup moins. Mais il y avait des devis par une entreprise liée à la Fondation Saint-Martin, pas par nous pour gonfler le prix des travaux. C'était 350 000 euros de travaux. C'était le début des difficultés. Donc, premier procès qu'on a gagné, mais au bout de 2 ans et demi. Donc, le bail avait couru, donc il ne renouvelait pas le bail. On ne sait pas comment ni pourquoi, tout d'un coup, la fondation qui voulait toujours vendre mais pas à nous. Tout d'un coup, il nous a dit au mois de novembre, ben, on vous choisit, on vous vend à vous. Bien. 23 décembre 2022, on signe une promesse d'achat, promesse de vente. 19 janvier, la mairie préempte. Nous attaquons cette préemption et nous gagnons haut la main puisque le 5 juillet s'est passé au tribunal administratif de Toulouse qui le 19 juillet a rendu son verdict. 5 clauses de nullité de cette préemption. On se demande un peu ce que font les services juridiques de la mairie quand même, c'est un petit peu ahurissant. 5 clauses d'annulation. Mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus parce que si la préemption annule la promesse de vente, l'annulation, qui est le cas de la préemption, ne restaure pas la promesse de vente. Et là, je me permets un petit jugement de valeur, collusion entre la fondation et la mairie, et bien la fondation ne veut plus nous vendre. Quand il y a eu destruction de la promesse de vente par la préemption de la mairie, la fondation est redevenue libre de vendre à qui elle veut. Comme il n'y a pas restauration de cette promesse de vente, ils ne veulent plus nous vendre à nous. Et pour pouvoir vendre tranquillement à la mairie, ben, il faut que ce soit libre d'occupation. Donc, ils veulent nous expulser. D'où la fameuse menace au 22 août qui n'a pas été respectée par nous. J'ai fait le nécessaire, je dis je parce que je m'implique, parce que le hasard de la vie privée fait que pour l'instant, la ferme du Gault est devenue ma résidence principale. Ce que la Fondation, par exemple, a dénié dans un article qu'ils ont passé dans la dépêche, ils ont dit que ce n'était pas ma résidence principale, mais j'ai ma feuille d'impôt, j'ai ma carte d'électeur que je vais produire au tribunal le 15 septembre, puisque j'ai demandé au tribunal un délai de 6 mois pour retarder l'expulsion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut aller au bout de cette histoire, on ne sait jamais. La Fondation, ayant une fois revu sa copie et accepté de nous vendre, va peut-être redevenir raisonnable et honorer sa promesse de vente initiale. Ça existe. Et peut-être que derrière, la mairie se rendrait compte que dans un des arguments qu'elle donnait pour préempter, c'était de protéger la biodiversité, que nous avons plus fait nos preuves que la mairie pour la biodiversité. Peut-être que la mairie ne repréempterait pas. Donc, pour gagner, entre guillemets, il faudrait... 1. Que la Fondation accepte de nous vendre et 2. Que la mairie ne préempte pas. Si les deux conditions ne sont pas réunies, on ne va pas se suicider et on en tirera les conséquences. Cela étant, il y a les prochaines échéances, c'est le 15 septembre, tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir ce délai de 6 mois. Et le 29 septembre, là, c'est la mairie qui, pour des raisons que notre avocat, évidemment, nous ne comprenons pas, nous assigne la Fondation, la SAFER et Urbaterra pour annuler la déclaration d'intention d'acheter qui était le préalable à la préemption. Pourquoi ? Nous le saurons le 29, mais on n'a pas compris les raisons. Donc c'est la prochaine étape judiciaire qui est une des raisons pour lesquelles je demande le sursis à expulsion, dans la mesure où on voudrait au moins savoir ce que cherche vraiment la mairie en voulant annuler cette DIA.
C'est à suivre donc dans les prochains jours. Si vous souhaitez soutenir Urbaterra et voir la ferme de plus près, la ferme du Gault, elle est située dans un méandre du Tarn, à lisière d'Albi, à quelques minutes du centre-ville, au bout du chemin du Gault, bien sûr. 2,5 hectares dans cette plaine agricole, poumon vert albigeois, visiblement en sursis et dont on peut se demander si elle ne finira pas comme la ferme de la Renaudier, engloutie sous le bitume commercial ou autre autoroute HQE, dite haute qualité environnementale. Mental à suivre. Allez, en bref, Pao.
Radio Albigès était sur la fête des associations d'Albi samedi dernier et nous avons ramené quelques échos radiophoniques de cette belle journée. C'est à retrouver en podcast via notre site internet radioalbigès.com. On vous prépare aussi d'autres échos de la journée du 9 septembre, cette fois à Val-d'Ariès, lors de la journée sport et loisirs, organisée par le Conseil municipal jeune. On en reparle tout bientôt.
Allez, tout de suite, un petit aperçu de la programmation de quelques émissions sur nos ondes cette semaine. Demain, mardi, à midi et 18h, vous avez rendez-vous avec notre magazine coproduit Tôt ou Tarn. Clémentine recevra l'association Cooking Jazz pour présenter la nouvelle édition du festival Coco Jazz du 14 septembre au 17 septembre à Gaillac.
Ce mercredi, dans l'émission Gardarem Latera, retrouvez le second épisode du reportage autour de la question de la transmission de fermes agricoles dans l'Albigeois avec l'association Terre Citoyenne Albigeoise.
Jeudi à midi et 18h, c'est Clémentine qui nous parlera dans l'émission d'Actu Occitane Bacchi l'Actu du festival Les Petits Cailloux qui aura lieu le 23 septembre prochain à Prat-Grossal.
Vendredi, dans le créneau à Toutarn, on ira à la rencontre de l'association L'Oiseau Lyre qui fête les 20 ans des concerts à domicile Chantons sous les toits.
C'est le retour de l'émission Lire des livres avec Suzanne et Sylvie. Deux bénévoles littéraires de la radio, elles nous présentent à l'occasion le livre Betty de Tiffany McDaniel. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Mais par-dessous tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. On vous fait la lecture sur Radio Albigeois à écouter ce mercredi à 14h, ce samedi à 6h et ce dimanche à 6h du matin pour les lève-tôt ou les couches-tard.
Petit rappel de la conférence débat que vous propose l'AGET, l'association Jaurès Espace Tarn. C'est demain mardi 12 septembre à 20h30 à l'Université Champollion à l'auditorium FAC, intitulé « Loi Darmanin sur l'immigration, où en est-on ?» en exposant les enjeux du projet de loi Darmanin 2023 et en rappelant combien la frontière est mince entre séjour régulier et séjour irrégulier, François Héran propose une approche résolument nouvelle de la question migratoire. L'entrée est libre et gratuite, participation au chapeau. Sachez enfin que Radio Albitzès vous propose un apéro radio pour se rencontrer autour d'une boisson ou autour d'un micro. C'est ce vendredi 15 septembre de 17h à 20h dans les locaux de la radio au 6 Square Amiral Abrial, quartier de la Panouse, ou en plein air si le temps le permet. Venez donc échanger sur les émissions, la grille, le fond musical et la vie associative de Radio Albitzès. C'est ce vendredi 15 septembre de 17h à 20h.
Allez, on termine en musique avec le duo tarnais Boucan, Mathias Imbert et Brunoy Zarn. Ils viennent de sortir leur nouvel album Blabla en ce mois de septembre. Tout un répertoire sans mots ou dans une langue inconnue, tout droit descendu d'un charabia martien pour ne pas dire cobayen. Ils seront en concert ce vendredi 15 septembre au Manoir à Albi et on écoute Blabla, le titre qui ouvre leur nouvel album. Comme lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Grand merci Pertutauko, Pao.
Merci Arnaud pour la technique.
Merci à toi Arnaud.
Et à lundi prochain, si tout va bien.
À lundi prochain.
Ciao.